19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, bienvenue pour la dernière de Time Sport sur Beurre FM 106.7 à Paris avec une équipe au top. Ce soir, ce n'est pas Bilal Nelman, c'est son remplaçant, Claude Tonnet, remplaçant de luxe. Je suis encore très loin, mais remplaçant quand même, en tout cas. On lui fait la bise, on le salue. Le week-end qui arrive. Et oui, et puis on va devoir rester à 21h à la maison, hein, ça va arriver.
C'est demain soir.
C'est pour ça qu'il faut faire la fête ce soir.
Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'à partir de minuit, on ne peut pas sortir.
Non. Oui. Non, ce soir, non.
Non, c'est pas ce soir, c'est à partir de
minuit. Non, ce soir. Ah, voilà, ça c'est la vraie bonne question quand même.
C'est ce soir, non. Ce soir minuit, à partir
oui,
de minuit,
vous restez à la maison. De minuit à 6h du coup.
Oui, Viknesh. C'est ça. Surtout toi, à partir de 22h.
Vous les avez vus, ils sont chauds, ils sont prêts, ils ont envie de débattre sur le couvre-feu. Yacine Boilly est avec nous. Comment ça va, Yacine?
Ça va.
Merci.
La baisse.
Ok, merci, Yacine Jouba.
Ça va,
comment ça va?
Ça va, Claude, ça va. C'est un grand plaisir de retrouver Vishmek avec nous. Là, j'ai entendu de grands big up à Viknesh.
Merci, Jouba. On est avec Sévan qui est avec nous ce soir. Comment ça va?
Ça va impeccable, et toi?
Bah écoute, ça va impeccable. Mais Jouba, c'est surtout que si on commence comme ça, l'émission se termine à 21h30.
C'est vrai.
Et oui, sans sujet, Jouba.
Mais Jouba, il veut pas parler de sport, c'est ça le problème.
Viknesh est avec nous.
Salut Claude, salut.
Tu m'as l'air bouillant toi aussi, hein.
Oui, on m'a bien énervé, donc il faut bien que je réponde.
Ok, et puis El Presidente, Camille Alcara, lui il attend. Il attend juste là pour débattre, il est là, il est prêt, il a
expliqué. Ouais, mais je suis pas parti de cette mascarade là. Donc voilà. Donc.
Surtout qu'on va parler de Griezmann après.
Tous les auditrices et les auditeurs, et c'est un plaisir d'être avec toi, Claude.
Et puis Nicolas est avec nous à la réalisation, comme d'habitude presque. On le voit souvent, Nicolas. Ça va, Nicolas?
Mais moi aussi, je suis le remplaçant du coup. Salut, coach.
Ah, mais toi, t'es un remplaçant de luxe. Elle est là la différence. On va enchaîner avec ras-le-bol avec le Paris Saint-Germain. Doit encore être toujours compté sur un nombre d'absents assez important. La photo club, oui ou non? On parlera de Ronald Koeman qui voit Antoine Griezmann sur le côté droit. Est-ce qu'il sera encore plus limité, où est-il parti sur une année de nouveau galère au Barça? Un petit mot sur le derby, un vrai derby, hein, c'est pas comme en France chez nous, Yacine, Inter de Milan, Milan AC, le grand duel italien, sera-t-il à la hauteur cette année? La Ligue 1 qui cherche d'autres diffuseurs, et puis un petit mot de F1 avec Renault, peut-il devenir un sérieux concurrent à Mercedes Red Bull? Tout de suite, le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Le Paris Saint-Germain doit encore et toujours compter sur bon nombre d'absents. Est-ce la faute du club?
Si je peux me permettre, Claude, si je peux intervenir sur cette question, j'ai le retour un peu fort, je fais signe un peu à Nico.
Tu vas nous annoncer que tu grattes l'oreille aussi ou pas?
Non, c'est juste le retour était un
D'accord,
peu fort,
okay,
je signale. Donc, le Paris Saint-Germain, c'est structurel, ce problème de blessés. On se rappelle la saison dernière, 6 blessés pour commencer la saison. Il y a un vrai problème, je pense, au niveau de la préparation des joueurs. Là, c'est pendant la trêve internationale, d'accord. Mais il y a quand même, je pense, certaines faiblesses qui s'expliquent par une mauvaise préparation des éléments, là. Marquinhos, Verratti. Enfin, c'est pas n'importe qui, là, qui sont blessés. Le Paris Saint-Germain a des lacunes de préparation au niveau de ses joueurs. Et ça, je pense que c'est un axe de progression que doit prendre en compte très rapidement, le Brésilien Leonardo.
Kamel, réaction?
Ben non, je pense pas que ce soit la faute du PSG. Je pense pas comme Jouba, parce que c'est le lot des grandes équipes, même des équipes normales. Je veux dire, il y a des blessés. Bon, il y a plus le cas Covid. Après c'est une semaine internationale, donc ça veut dire que les Sud-Américains, vu qu'ils ont beaucoup joué et ils ont fait des 14h 15h avec le décalage horaire, donc il faut les laisser se reposer. Non, je pense que voilà, ça fait partie de la vie d'un club de football professionnel. Moi je pense qu'il se passe avant les blessures, c'est les cas de Covid, parce que c'est ingérable. Mais je pense que non, et puis ça va faire rentrer des Keane, des Rafinha, etc. Donc je pense que voilà, ils vont être dans le comment ça s'appelle, dans le bain, et puis voilà, et c'est ça. Mais mettons après Paris n'a pas besoin d'avoir sa top équipe pour gagner le championnat de Ligue 1 Uber Eats. ils vont plus livrer Uber Eats, parce que il y a un problème de sponsors et de
diffuseurs,
Media Pro. Donc voilà, non, mais je pense que voilà, donc c'est pas la faute du PSG, c'est le lot de tous les clubs.
Viknesh, est-ce qu'on doit s'inquiéter
S'inquiéter, non. Je dirais non, non. Après, il ne faut pas s'inquiéter parce que le PSG a du banc, a une équipe bien solide pour la Ligue 1, comme Kamel l'a précisé. Après, je ne dirais pas que c'est la faute du PSG non plus. Parce que après, il y a une préparation tronquée à cause de, du Final 8, etc. Une succession de matchs avec la Ligue 1 qui reprend directement, etc. Et là, il y a l'équipe nationale pour beaucoup de joueurs. Et ça fait un enchaînement incroyable, en fait. Les joueurs, ils jouent pratiquement tous les 3 jours. Donc ça, c'est dur. Je pense qu'ils ne sont pas prêts. Et les joueurs qui sont blessés, il faut souligner que c'est des joueurs qui sont fragiles, la majorité. Verratti, Kerrer, c'est des joueurs qui sont fragiles. Donc ça, ça peut se comprendre, en fait. Après, le seul que je trouve un peu étrange, c'est Marquinhos. Parce que lui, il est solide depuis des années. Il n'a pas eu de grosses blessures. Et là, il s'est blessé. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Mais le reste, ce sont des joueurs qui sont fragiles. Donc ça peut se comprendre. Eux, ils enchaînent des matchs tous les 3 jours. Ils n'ont pas l'habitude. Et Draxler. Après, il faut aussi noter que le PSG a des joueurs qui sont suspendus avec Kurzawa et Di Maria. Donc, malgré cela, le PSG aura un bon 11 demain. Enfin, ce soir, pardon. Ce soir, ils auront un bon 11 de départ. Et ça sera intéressant, malgré tout. La Ligue 1, je pense que le PSG n'a pas besoin d'avoir 6, 7 joueurs. Enfin, je pense que même l'équipe B du PSG va écraser Nîmes, logiquement.
Yassine. C'est un problème.
Ouais, après, en Juba, je pense pas. J'espère que Tuchel ne l'a pas entendu quand il dit c'est des lacunes de préparation. Il faut qu'il se renseigne combien de préparateurs physiques travaillent au sein du PSG. Hein. Je pense que même chaque joueur pourrait avoir son propre préparateur physique. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on connaît la circonstance particulière de ce que vit le monde du football, surtout le Covid, quand les joueurs restent inactifs pendant des mois, donc ils sont sujets à beaucoup de blessures. Mmh. Et là où je pourrais rejoindre Viknesh, ce n'est pas une question de joueurs fragiles ou pas. Les joueurs, quand ils enchaînent pendant une longue, enfin des matchs au bout de 3 jours ou de ça devient sujet à des blessures. Quand on va parler du cas Verratti, c'est un joueur qui joue, c'est un milieu récupérateur, donc il défend beaucoup, il tacle beaucoup, donc il s'expose énormément à la blessure. C'est le cas de Kerrer. C'est pas parce que c'est un joueur fragile.
Là, je suis d'accord avec ce que vient de dire Yacine. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Mais l'année dernière, on se rappelle, 6 blessés d'entame de saison. C'est Cavani, c'était. Il y avait qui l'année dernière? Il y avait Neymar, il y avait une belle paire de.
Je pense que vraiment, il y a un problème de
préparation.
Je suis d'accord avec toi.
Sévan, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y.
Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Il y a un gros problème, entre guillemets, dans la préparation. Je pense que. Après, cette année, c'est un peu particulier, la situation du Covid, où justement, ils n'ont pas eu un temps de préparation. Ils ont rapidement enchaîné entre la finale Ligue des Champions et le début du championnat. Ça a été compliqué. Après, moi, ce que je regrette assez pas mal, c'est le fait que Tuchel se plaigne énormément. En conférence de presse, on le voit. Il y a toujours un problème. C'est jamais entre guillemets sa faute. Il y a toujours un problème de groupe. Mais je pense que c'est lié au staff tout simplement du PSG. Il y a certes ces enchaînements de 3 jours, mais c'est le cas de tous les clubs. C'est le cas de tous les clubs.
Bah, c'est ça. Donc,
on parle d'un des meilleurs staffs en Europe. Hein, un staff qui a les.
D'accord, mais il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Toujours des joueurs blessés, surtout dans les gros matchs. Là, Verratti. Il est incertain déjà pour le début de la Ligue des Champions.
Mais je pense que là il y a un problème. C'est-à-dire, vous dites c'est la faute du PSG.
Des préparateurs.
Attendez deux secondes. C'est la faute du PSG, c'est-à-dire c'est la faute des préparateurs physiques et du staff médical. Le staff médical et les préparateurs physiques ont été changés cette année.
Oui.
Ils ont été tous changés. Donc je pense qu'on peut pas dire que c'est la faute. Là c'est des blessures normales. Qui
peuvent arriver dans une carrière.
Il y a pas 3, 4, 5, 6 ruptures de ligaments, etc. Je pense en plus c'est le docteur Chalabi qui est une sommité au niveau du mondial qui est là. C'est l'un des meilleurs du monde. Attends, laisse-moi terminer, c'est l'un des meilleurs du monde qui a repris le
service. Mais ça a
été quand
la reprise? C'était quand qu'il a repris ça?
Ben là, l'année dernière, cette année.
Ouais, mais c'est encore trop tôt.
Juba doute du médecin. Juba doute d'un des meilleurs médecins du monde.
Arrête un peu, c'est air condescendant. Enfin, je ne suis pas là en train de douter d'un médecin. Je ne me permettrai jamais de douter d'un médecin. Je parle de décisions politiques, structurelles et de la décision et des mises en place sportives. Je ne parle pas d'un médecin. Je ne suis personne. Personne ne peut être à cette table et dire je doute d'un médecin. En équipe, je doute d'un médecin. Personne ne doute d'un médecin.
Il n'y a aucun problème. C'est que tu poses la question à Kamel en demandant depuis quand il est là.
Le staff. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est il faut pas employer des mots synonymes de je sais plus quoi. C'est-à-dire quand tu dis le staff Saf, si tu parles. Attends, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer.
Tu peux laisser un kiné, s'il te plaît. Qu'on
c'est quand tu parles de staff au niveau blessure, tu parles du staff kiné et médecin. C'est, tu fais cet amalgame-là. C'est logique. C'est
tout le monde.
Les préparateurs physiques.
Physique et les médecins. Parce que les médecins.
Parce que, est-ce que j'ai parlé des médecins une seule seconde?
Mais si, automatiquement. Parce que les médecins.
Non, je parle pas des médecins.
Alors, les préparateurs physiques, attends, je termine. Les préparateurs physiques ont été changés. Le staff médical a été changé. Et je pense que ça va de mieux en mieux au PSG. Et ils ont pris le taureau par les cornes. Et ça va mieux.
C'est une réaction.
Certes, le staff a peut-être été changé. Enfin, en tout cas, sur ce problème. Mais on fait sujet aujourd'hui parce que c'est un débat récurrent. Il y a toujours un problème au PSG sur des blessures, sur un groupe amoindri. C'est toujours le problème. Et Tourelle en parle constamment, bien sûr.
C'est un problème. Attends. Beaucoup de clubs en France.
C'est tous les clubs,
Même en Europe.
On fait
Marseille. Tous les clubs. Mais elle prend Marseille en exemple. L'année dernière, combien de blessures par rapport au Paris Saint-Germain? Enfin, on n'attend pas autant de blessés.
Marseille n'a pas joué.
On a eu Jeffrey Adelaide et Depay. D'accord. Et ben, à part ça, on n'entend pas de problème de blessure.
Et surtout, le Tourelle n'en parle pas constamment.
Ok, alors le Paris Saint-Germain se déplace à Nîmes ce soir, coup d'envoi à 21h. Nîmes est fortement décimé. On n'en parle pas.
Aussi.
Voilà. Donc il y a une situation quand même assez particulière.
On parle de Paris.
Non.
Mais Paris, c'est le plus grand club.
Attendez. Vous, on parle de Paris, c'est un fait. Parce que c'est dans le conducteur. Mais ne me dites pas qu'il n'y a qu'un club en France qui a des problèmes de blessés. C'est tout. Il y a tous les clubs ont des problèmes de blessés. Sauf on n'en parle pas parce que c'est des clubs mineurs. C'est des clubs mineurs et on parle que du PSG. Parce qu'on pointe le doigt sur le PSG. Il n'y a pas le même impact. Donc c'est normal. Donc maintenant on peut parler de Nîmes, on peut parler de Bordeaux, on peut parler de Toulouse. Ils ont tous des problèmes de blessés. C'est aussi simple que ça.
Voilà, quand c'est Verratti qui est blessé, c'est pas le même impact.
C'est ça.
C'est un joueur anonyme du championnat de France, simplement. Donc le problème, il se pose même pas uniquement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. C'est une conjoncture assez particulière. Même si je dois encore dire à Juba que quand on parle d'un staff d'un club professionnel, le staff médical, il est compris dedans parce que c'est le premier responsable de la santé des joueurs.
Bah oui, de la condition
physique.
C'est
le premier responsable. C'est le médecin en chef du club. C'est lui qui donne
l'aval ou pas.
Bien sûr, c'est très très important. C'est lui le patron du staff. Voilà. C'est lui qui choisit les médecins, c'est lui qui choisit les kinés, c'est lui qui choisit tout le monde.
Vignesh, réaction.
Pour revenir sur le sujet, parce que là on parle du PSG, etc., parce que c'est le plus grand club français, européen, certes. Après, c'est.
Non, Paris, club français,
c'est,
pas européen.
Oui, européen, un des clubs plus grands clubs, on va dire.
Voilà,
c'était plaisir. Ouais, après, ça fait parler, c'est normal. Après, si on est en Angleterre, même en Espagne, en Italie, il y a des joueurs qui sont blessés.
Ah oui.
Et même, par exemple, pour parler de France. Il y a Montpellier qui a 12 cas de Covid.
Aujourd'hui,
ça, on parle pas de Covid.
Mais
on sait qu'il y a des blessures que du Covid, tu vois. En fait, on choisit les
sujets. Le Covid, c'est une blessure aussi. Hein.
Bah ouais. Oui, non, mais le Covid, on parle hors Covid. Là,
oui,
là,
mais c'est un problème de santé aussi, tu vois.
Comment?
Et le PSG avec des joueurs qui avaient le Covid, on en a parlé. Non, aussi, mais là, tu vois.
Oui, oui, mais
là, le PSG, ça fait tout le temps parler. Donc, c'est incomparable. Donc, on peut parler de ce que tu veux. Le PSG, c'est un truc qui fait parler.
Non, mais là,
tout le monde pour n'importe quoi.
Mais là,
même Neymar qui va aller manger un truc, on va parler de ça.
Neymar, il n'est pas dans le groupe ce soir.
Non, mais là.
Parce qu'il a Covid.
Comment?
Non,
il est Covid. Il n'est pas dans le groupe. Après son trick avec le Brésil.
Il est au repos, il est au repos.
Mais là, sur le problème ce soir, il y a des joueurs qui sont blessés. Il y a des joueurs qui ont des cas de Covid. Il y a des joueurs qui sont au repos, les Brésiliens,
les
etc.
Brésiliens,
etc. Donc, et puis, c'est le lot d'un club professionnel. Ils ont 25, 26, 27 joueurs. 27 joueurs. Ils doivent les faire jouer. Donc là, maintenant, ils vont faire jouer leur
et encore,
Keane et Rafinha et Danilo. Danilo est un cas contact parce que
l'a très bien dit.
Voilà,
c'est un grand bienfait, Kamel. Merci
d'avoir grand bienfait des joueurs.
Les recrues vont pouvoir jouer et toucher les terrains. Ça, c'est un très, très très bon point.
Toi, je sais pas, sur ce plateau, tu remettais en question le recrutement de Rafinha. Ben là, il va jouer normalement ce soir, tu vois. Donc, quand
j'ai jamais remis en cause le.
Bah, t'as demandé pourquoi il est venu au PSG, en quelque sorte.
Ouais.
Donc après, voilà, aujourd'hui, il va jouer.
Bah, et là, tu vois, c'est ça veut pas dire qu'il a dit pourquoi il est venu au PSG et remis en cause. C'est-à-dire peut-être qu'il veut.
Il le
voyait au Real de Madrid. Fourni. Peut-être.
Ah, au Real Madrid.
Ouais, et je disais que le milieu de terrain était déjà très fourni au PSG.
Mais là, il fait jouer.
Il a raison, il fait jouer des nouveaux qu'on va voir parce que l'année dernière, Gueye ou Paredes ou autres ont pu décevoir au milieu de terrain.
D'après les informations qui viennent du Brésil, apparemment Rafinha, il a, selon quelques anciens joueurs brésiliens, apparemment, il a un potentiel énorme.
Oui, oui.
Donc, on aura l'occasion ce soir de le voir contre Nîmes.
Face à Nîmes, qui compte 7 absents à l'Invi, Cuba, Smelling, Denke, Chadli, Ferrat, Sarr. On n'en parle absolument pas. C'est des joueurs majeurs. C'est des joueurs majeurs de l'équipe de Nîmes qui jouent, bien sûr, le maintien. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour ce Paris Saint-Germain. Décimé ce soir.
Je pense que Tourelle, il est en train de nous jouer le rôle de Calimero. C'est-à-dire, il sait qu'il va pas, qu'il est sur sa dernière année de contrat. Il va sauter c'est même incessamment sous peu.
C'est même
et,
pire que ça.
Et voilà, il fait que ça. Ça veut dire, il se dit, j'ai pas un gros effectif alors qu'il a l'un des plus beaux effectifs d'Europe, etc. Donc non, il joue son rôle de Calimero jusqu'à temps.
C'est même pas sûr ça, Kamel. En fait, lui attend une chose. Parce que lui, il veut partir. Ouais. On voit que l'entente avec Leonardo n'est plus là. Lui, il en a marre. Il en a clairement ras-le-bol. Ouais, il essaye de tout faire pour se faire virer et toucher le jackpot comme Laurent Blanc.
Il en a marre. Mais quand t'es dans un club comme le PSG, tu dois savoir pertinemment que on te ramène pour un objectif bien précis. On l'a ramené pour gagner la Ligue des Champions. Et certes, il les a emmenés en finale. Mais sur la qualité de jeu, la salle désirée par rapport à l'ère Laurent Blanc ou le PSG. Dominer ses adversaires de très haut. Donc aujourd'hui, je pense que c'est juste une perte de temps pour le PSG de le garder encore un an.
Mais là, il est en train de prendre un parapluie. Par exemple, si je le souhaite pas, mais si il perd contre Nîmes, il va dire c'est de la faute de Leonardo parce qu'il a pas ou des blessés ou etc. Donc il va toujours chercher un prétexte, etc.
C'est pas une attitude à avoir là-dessus. Quel entraîneur en Europe dans un gros club a cette attitude de toujours se plaindre sur le monde.
Vous les Marseillais, vous ne ratez pas une occasion pour tirer sur les Parisiens.
Quand c'est pas bon, bien sûr.
Merci. On salue au passage quelques joueuses des féminines de Viroflay, Mathilde, Clémence, Hélène et Marion, dirigeantes indispensables de l'effectif.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
De retour sur Time Sport, Beurre FM avec Vic Nesh, avec Kamel, Sevan, Monsieur Boali, Yacine. On va parler de Koeman et de Griezmann. Time Sport. Koeman voit Griezmann sur le côté droit. Est-ce qu'il sera encore plus limité ou est-il parti sur une nouvelle année de grosses galères?
De très grosses galères. Vas-y.
Sevan.
Moi, je pense que ça va être encore une année compliquée pour lui. On sait que Coman ne compte pas sur lui, entre guillemets, dans l'axe de son équipe. Ça sera obligatoirement sur un côté. Griezmann, voilà, lui a répondu en disant que Deschamps sait, entre guillemets, où l'aligner. En poste de numéro 10 derrière son attaque. C'est comme ça qu'il joue. Il a été habitué à jouer comme ça. Je vois pas, c'est pas le même profil. En tant que numéro 10 sur un côté, c'est pas le profil que Griezmann entre guillemets sait faire, et donc je vois pas comment entre guillemets il peut continuer encore une année comme ça au Barça sur ce côté où voilà il reçoit pas de ballon, il est pas assez dans le jeu et il est pas assez impliqué.
Moi en écoutant Sevan, j'ai l'impression qu'il demande au Barça de recruter Deschamps pour le savoir le faire jouer.
Ça y est.
Au vent de Griezmann.
C'est pas ça, mais il le met pas à son poste.
Mais mon cher Sivan.
Et honnêtement, moi je reproche carrément limite le Barça d'avoir recruté Griezmann. Exactement. Si c'est pour le mettre sur un côté. Exactement. C'est ça le problème. À quoi ça sert d'acheter un Griezmann pour le mettre sur un côté, sachant que c'est Messi qui fait le jeu.
À quoi ça sert tout court d'acheter un Griezmann?
Non mais.
Au Barça, je parle au Barça.
Au Barça, à quoi ça sert tout court d'acheter un Griezmann?
De toute façon, ça c'est la politique catastrophique de recrutement du Barcelone. Ça veut dire que vous avez un joueur qui joue soi-disant parce que maintenant monsieur faut le faire jouer
comme Deschamps.
Donc alors qu'il doit prendre la place du numéro 10, c'est-à-dire de Messi. C'est pas un petit numéro 10, hein, c'est un petit joueur, hein, Messi, ouais. Hein, tu vois, c'est pas il marque 40-50 buts par match, voilà. Donc je veux dire même Griezmann, qu'est-ce qu'il allait foutre là? Ça veut dire il s'est pris pour plus qu'il l'est, ça veut dire qu'il allait prendre la place de Messi parce que il joue à la même place que lui. Donc je veux dire, il y a un moment donné, soit Griezmann il quitte le Barça parce que il est obligé, mais bon, je pense qu'il va rester, mais à cette place de 7 de joueurs de couloir, il va pas jouer. Quand Dembélé sera là, Ansu Fati il est meilleur que lui, tout le monde, Dembélé
3 ans au-dessus de
il y a du monde devant lui,
Trincao,
aberration.
Dembélé
est trop inconstant, n'a pas le niveau, même pas Barça, n'a pas le niveau Barcelone. Ah. Ça, c'est une réalité.
Là, je suis pas d'accord avec toi. Niveau technique,
oui, mais enfin, je veux dire, la technique, c'est pas, ça fait pas tout. Là, on
mais quand il est opérationnel, Dembélé, il est dans le jeu du Barça, il est au-dessus de Griezmann.
Ouais, mais opérationnel, combien de matchs dans l'année?
Ça, j'ai pas mesuré, mais ouais, il est au-dessus de Griezmann.
Il est vraiment taillé pour le jeu du Barça.
Mais surtout que c'est un joueur de côté, Dembélé. Il joue à droite, alors que Griezmann, il peut pas jouer de son côté.
Oui, mais on sait que ça marchera pas, voilà. Il a pas la condition physique.
Mettons Griezmann, il se prend pour Messi. Ça veut dire il va demander au Barça de recruter Deschamps, comme t'as dit Yacine, pour pouvoir le faire jouer. Laisse-moi terminer. Pour pouvoir jouer à sa place, c'est-à-dire il y a que Deschamps qui sait où il joue. Tu vois, c'est son papa.
Je me suis promis de limiter mes interventions sur le Barça et sur Messi, parce que on tacte tout le temps de dire le FC Messi, etc. Je pense que Griezmann clairement doit s'échapper du piège dans lequel il tombait, c'est-à-dire jouer aux côtés de Messi, qui plus est un mec qui a le même, enfin qui veut jouer dans le même poste que lui et qui avec qui il s'entend pas. J'aurais bien proposé une entente à deux dans l'axe, mais bon, il n'y a pas d'entente et je pense que Messi ne laissera jamais l'ombre d'une place à Griezmann.
C'est pas possible. Je pense que c'est impossible.
Le basta, c'est Griezmann n'a plus rien à faire au Barça, il doit s'en aller.
Il aurait déjà dû partir cet été, mais il devait partir après.
Il y avait un contexte particulier avec le Covid, etc. Mais moi, je pense que oui, ce sera une année très très galère pour Griezmann à droite. Surtout que l'année dernière, on a vu, il était sur le côté, il était à gauche, où il est meilleur qu'à droite, en fait. C'est ça qui est paradoxal. À gauche, normalement, il est logiquement meilleur qu'à droite. Et là, à droite, il fera rien. Surtout avec l'éclosion d'Ansu Fati à gauche, qui est monstrueux. Avec Messi, Coutinho qui est revenu. Griezmann, il sera inexistant, en fait. Ça sera très difficile pour lui. Et surtout qu'ils ont acheté Trincao, un bon petit joueur. J'aime beaucoup ce petit joueur. Et si
c'est pas un petit joueur, Trincao.
Non, mais pour l'instant, un petit joueur, pour l'instant. Je parle actuellement. Et s'il arrive à
faire la différence. On va en parler dans 6 mois. Hein.
Et s'il arrive à faire la différence, il arrive à exploser, il sera titulaire. Et Griezmann, il sera sur le banc. C'est ça le problème.
C'est là une réaction.
Moi, aujourd'hui, on en arrive au fait que le Barça, entre guillemets, n'a pas réussi à retrouver un grand ailier, on va dire, depuis que Neymar est parti, entre guillemets, ils n'ont pas réussi à retrouver ce joueur sur le côté. Fatih commence à éclore. Il y a des joueurs qui commencent à arriver, mais depuis Neymar, voilà, ça a été une gestion catastrophique du Barça.
La blessure de comment il s'appelle, de Dembélé, ça l'a pas facilité la tâche.
C'était pas prévu, mais dès qu'il est arrivé, il y a eu des complications. On a vu un peu, dès le départ, c'était un mauvais pari. Coutinho, ça a été mauvais aussi. Il y a eu une façon sur le coup, ils ont pas réussi à reprendre la place de Neymar.
Même Coutinho, mais je pense que c'est même pas ça. C'est l'adaptation de ces joueurs et de jouer aux côtés de Messi. C'est pas facile.
C'est pas le problème.
Je jure que c'est pas facile.
On se calme. Pourquoi on se calme?
Je peux parler? Alors, faut arrêter avec l'adaptation Messi, parce qu'il y en a, et ça, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Parce que quand t'es un bon joueur, tu peux t'adapter à tous les postes. Laisse-moi terminer. Maintenant, je pense que Barça, avec leur politique de recrutement qui a été un fiasco, ils n'ont pas su gérer les trois dernières années.
Ouais.
Voilà, les 4-5 dernières années, même, je dirais, avec Abidal qui s'est mis en directeur sportif, mais qui était zéro. Donc, je pense que c'est un problème. Maintenant, moi, je me mets à la place de Koeman. Je suis entraîneur, je viens à Barça. Il a donné son accord pour que Griezmann reste, etc. Maintenant, la proposition de Griezmann de dire moi j'ai un entraîneur qui sait où me faire jouer, ça veut dire que Koeman il sait pas où le faire jouer.
Non,
ça veut dire attends,
c'est que Koeman n'a pas les rênes, c'est tout. Basta,
attends, Djouba, toi tu as été le premier, vous avez tous le premier à dire voilà c'est Koeman qui arrive, qui va tout remettre de l'ordre dans la maison, etc. Il a toutes les rênes et maintenant tu me dis il a pas les rênes. Donc faut savoir sur quel truc marcher.
Je veux dire,
donc je veux dire, maintenant je termine. Moi Koeman il a été déstabilisé par Griezmann en disant moi j'ai un entraîneur qui sait me faire, donc ça veut dire toi t'es un entraîneur qui sait pas me faire jouer, donc il connaît rien au football, et ça je pense qu'il va le payer Griezmann.
Exactement, Koeman il vient de le souligner, parce qu'on peut pas dire à un entraîneur moi j'ai un entraîneur qui, et voilà. Donc je pense qu'aussi Koeman après les devants, il lui a dit que je vais te faire jouer sur les côtés pour lui dire que tu ne vas plus jouer. Quelque part ça veut dire au lieu de lui dire je te mets à l'écart, c'est-à-dire tu ne vas plus jouer. C'est, t'as envie de jouer, il faut que tu montres ton niveau. C'est pas le but que t'as marqué dans un match, Spaghetti contre la Croatie, qui va me faire changer d'avis. Donc, la Liga espagnole, ce n'est pas les matchs de la Ligue des Nations on joue à 3 à l'heure. Donc là, pour, bah c'est vrai, c'est vrai.
D'accord,
hein. Il n'a pas le niveau.
La question.
Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau du Barça, tout simplement, dès le départ.
Mais c'est pas ça.
C'est pas ça.
La question, s'il vous plaît.
On s'entend plus là. Il était quand même, il était un roi à Madrid, pas au Real,
mais bien à
l'Atlético. Donc il aurait dû rester là-bas. Aujourd'hui, il ne sera même pas magasinier.
La question aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi Coman a voulu le garder dans l'effectif si il compte le mettre sur un côté droit.
C'est pas Coman qui l'a gardé parce que le Barça, ils l'ont payé trop cher sur le marché, le mettre sur le marché, qui va payer aujourd'hui 80 bâtons pour 100 millions pour un joueur comme ça.
Aujourd'hui, avec la mode des prix et options d'achat,
même Nîmes, je pense pas qu'il mettrait 15 bâtons sur lui. Donc qu'on le veuille ou
non, faut pas remettre en question le talent de Griezmann. C'est positionnel.
Griezmann, c'est un bon joueur.
Et le talent de Griezmann.
Non, Griezmann, c'est un bon joueur.
Il a jamais eu de talent, Griezmann.
Il a eu du talent. Quand même. C'est un bon joueur de foot. Quand même, arrêtez.
Attends, tu peux pas.
C'est un joueur de football et basta.
Il s'est trompé. C'est un bon joueur.
Mais Griezmann, il s'est totalement trompé de club.
C'est un choix de Griezmann aussi. C'est totalement foiré.
Attends. C'est une faute. C'est de sa part.
Non, c'est faux de dire ça, Kamel. Parce que lui, pourquoi il part, Griezmann? Il a atteint un plafond de verre. Il sait que ça sera un champion d'Europa League avec l'Atlético.
Pourquoi il part au Barça? C'est ça la question.
Quand tu joues au même poste que le meilleur joueur du monde, tu peux pas te prétendre, comme il a dit, je vais manger à la table de Messi et de Ronaldo. Il rentre même pas dans la cuisine normalement. Donc je veux dire, il y a un moment donné, je sais que les footballeurs, ils ont un ego surdimensionné, mais là à un moment donné, c'est trop. C'est-à-dire tu pas. Donc il aurait
dû prendre même pas faire la comparaison.
C'est quoi, il aurait dû prendre Manchester United avec le numéro 7, il aurait fait ressurgir Cantona, etc.
Voilà, un peu. Et encore.
Il aurait été numéro 10 à Manchester United.
Ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il a un truc que ni Messi ni Ronaldo a, il est champion du monde.
Ah ouais, non,
il est champion.
Moi j'aurais bien vu.
Il est champion du monde.
Juste à ce titre-là,
il s'assoit à la table de Messi et de Ronaldo.
Non, il s'assoit.
Tu sais pourquoi
il s'assoit?
Mais non. Ça n'a rien à voir, en fait. Parce que dans ce cas-là,
tu peux parler, tu peux écouter. Ça veut dire les 23 joueurs du attends, laisse pas terminer.
Même
les
Rami.
23 joueurs, même
Zeki, si on compare c'est une aberration.
Mais j'ai pas mené l'équipe de France,
c'était le meneur de jeu de l'équipe de France.
Tu
peux pas dire ça.
Merci messieurs. On ne s'écoute plus, Kamel.
Tu parles du titre de champion du monde. Je te renvoie à ça. Il y a 23 champions du monde. Il n'y en a pas qu'un seul.
Tu peux pas me mettre sur le même pied de niveau.
Merci Juba. Merci. Tout de suite, la victoire.
Time Sport, la victoire.
Je crois que vous avez tous passé vos diplômes d'entraîneur et là on verra. Parce que c'est pas possible, on s'entend plus!
Déjà, on s'entend plus
sur le plateau! La victoire, c'est bon, passons à autre chose. Inter de Milan, Milan AC, le grand duel italien, sera-t-il à la hauteur cette année? C'est ce que je veux savoir, c'est ce que les auditeurs et auditrices ont envie d'entendre maintenant.
Oui, c'est Yacine. Bon, moi,
ce soir, le Milan contre l'Inter, ça, depuis la nuit des temps, même si le championnat d'Italie, les 10 dernières années, a traversé quand même une vague creuse, y compris surtout l'AC Milan où il était dans une phase délicate depuis l'arrivée de Ibrahimovic. On ressent un petit peu un regain de forme
même à l'Inter.
L'Inter, ça fait quand même 2-3 ans qu'il se porte bien.
Je pense
que c'est. Je ne sais pas si c'est arrivé au bon moment. Ce derby, le fait qu'il se joue après une trêve internationale, surtout quand on voit beaucoup les joueurs internationaux qui composent les deux effectifs, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'heures de vol, hein, il y a beaucoup d'étrangers dans les deux clubs. Je ne sais pas si c'était la bonne période d'avoir programmé ce match, mais ça reste quand même l'un des plus grands chocs de ce championnat d'Italie. Hein. On va assister certainement à un bon match. Sévan, tu confirmes?
Ouais, ça reste un grand derby, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on compare un peu les deux équipes, je pense que l'Inter, ça reste au-dessus quand même. On sent que l'Inter Milan, ça s'est bien renforcé cette année. Ils ont fait un bon mercato. Ouais, je pense à Hakimi notamment, qui a vu renforcer, ou même à
Kolarov aussi.
Kolarov, hein.
Ça tient bien le Maroc, hein, Hakimi. Hein.
En tout cas, c'est un très bon joueur qui va venir.
C'est un bon joueur.
Après, on parle du Milan C. Voilà,
on distribue beaucoup de bons points pour les joueurs.
C'est pas que Ibrahimovic. Attention, on dirait que le Milan, c'est Ibrahimovic. Le Milan, c'est d'abord Leonardo. Non, mais il a aidé. C'est Leonardo d'abord. C'est Leonardo qui a remis quelque chose.
Dans ces derniers mois, c'est Ibrahimovic qui a relevé un peu les.
Oui, depuis janvier.
Oui, mais c'est Leonardo d'abord. Parce qu'il n'y a pas que Ibrahimovic au Milan. Ça ne peut pas être lui tout seul. Ça n'existe pas.
Non,
c'est toute une équipe.
Bah, ouais, quand même, il a contribué
à relancer l'équipe.
C'est un moteur quand même.
Un Ibrahimovic de 35 ans pour.
Je suis d'accord avec toi. Voilà, on est en France. On n'aime pas les vieux, que tu dépasses 25 ans, t'es vieux. Mais je veux dire, il y a un moment donné, quand tu vois les performances d'Ibrahimovic à l'AC Milan, tu ne peux rien dire. Tu n'as aucun sujet de tout truc. Maintenant, je vais vous dire. L'AC Milan,
comme elles sont beaucoup bien meilleures que celles de Griezmann au Barça.
Voilà, ouais, déjà. Voilà.
C'est pas comparable.
C'est pas le même contexte.
Bon, restons sur le sujet.
Maintenant, je terminerai sur l'AC Milan qui a été propriétaire des Chinois. Ça a été une catastrophe. Hein, ils ont été les Chinois quand on en parlera avec Mediapro. Hein, c'est une catastrophe. Maintenant, je vais vous annoncer une nouvelle. L'AC Milan est propriétaire d'un fonds américain, mais il va passer sous l'égide de LVMH, Bernard Arnault, à la fin de l'année 2020. Il va acheter le.
Vignesh.
Pour revenir sur le match, du coup, Inter Milan AC, on va parler du match. Pour moi, je pense que ce sera un beau match.
Ce que je veux.
Mais bien sûr.
Droit, voilà.
Totalement.
Merci.
C'est une très bonne info d'ailleurs.
Voilà, merci.
Voilà. Et du coup, pour revenir sur le match, c'était le sujet quand même de base. Oui, ce sera un très beau match parce que, comme on a dit précédemment, l'Inter, ils sont renforcés et ils sont dans la suite logique de ce qu'ils ont fait l'année dernière. L'année dernière, ils n'étaient pas très loin du titre et là, ils sont renforcés, donc ils ont une belle équipe avec bien qu'ils ont perdu Godin notamment, mais ils sont bien renforcés sur les côtés et au milieu, donc ils seront présents cette année avec Eriksen qui sera adapté normalement. Lui, c'est un très bon joueur. Et le Milan, on parle certes d'Ibrahimovic, c'est un très bon renfort, c'est important, il encadre les jeunes, mais avec l'éclosion de Leao cette année qui marque des buts, Théo Hernandez qui doit confirmer, avec le recrutement de Tonali, ils ont acheté beaucoup de jeunes, le Milan, et ça va être très très intéressant.
Tu as cité tous les joueurs, mais le poumon de l'équipe du Milan AC,
Benacer,
c'est un bon joueur. Tonali, joueur de Brescia qui est venu, qui était déjà annoncé même du côté de la Juve, si je me trompe pas.
Non, c'était l'Inter, ça devait se faire avec l'Inter. Pour moi, mais finalement, ils ont pris Vidal.
Et même, je crois qu'il était évoqué aussi du côté de la Juve. C'est vraiment un très très bon joueur.
C'est un
et
bon
la
joueur.
Jeunesse
on va voir
pousse, aussi, c'est, pousse aussi cette équipe du Milan. Attention, ne pas résumer le Milan à
la juste avant la pause.
Il est là pour encadrer.
Aujourd'hui, on parle de tous ces joueurs, mais est-ce aujourd'hui, où vous situez le Milan AC dans le championnat italien? Je suis même pas sûr que dans le top 3, voilà, c'est même pas dans le top 3. Donc, par rapport à un Juventus, Inter de Milan, même l'Atalanta aujourd'hui, c'est plus fort. Enfin, je vois pas, là, c'est Milan, entre guillemets, voilà, c'est pas encore au top du top et venir concurrencer la Juve et les grands clubs italiens.
Merci, Sévan, dédicace à V83, Danière. Passe de pur, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Oui, Alonso.
On est de retour pour la dernière partie de Time Sport sur Beurre FM. 19h-20h, votre quotidienne émission sport avec le duel.
Time Sport. Le duel.
Ligue 1, notre pauvre Ligue 1. Où en est-elle aujourd'hui, là? La Ligue 1 cherche d'autres diffuseurs médias pro arnaque du football français moderne. Kamel, qu'est-ce qui se passe?
Oui, de toute façon, Mediapro, ils ont engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre. Ça va durer longtemps. Donc, je pense que maintenant, la Ligue va mettre en avant le non-paiement des droits au bout d'un mois. Je crois, c'est un mois. C'est un mois après la date des faits. Le non-paiement des droits et va retirer les droits TV à Mediapro. Voilà, donc ça veut dire que Téléfoot, etc. tous les journalistes vont être licenciés, je pense, hein, si c'est truc. Et après, maintenant, ils vont remettre les droits TV sur le marché. Donc ça va être Canal Plus et Bein Sport. Et voilà. Et maintenant, Bein Sport et Canal Plus, maintenant, ils vont être en position de force. Et ils vont pas acheter à 1 milliard d'euros. Et mais je pense que ça a été dès le départ. C'est ça, c'est le fonctionnement de la NFL. Ça veut dire le directeur Didier Quillot, et je terminerai sur ça, directeur Didier Quillot, négocie les droits TV.
C'était Nathalie Bois de la Tour.
Non, c'est Quillot.
Il y a aussi Nathalie Bois.
C'est Didier Quillot qui a négocié. Arrête de me contredire.
C'est pas tout seul. C'est sa supérieure hiérarchique, Nathalie Bois de la Tour.
Ouais, mais ils n'ont pas les mêmes dossiers en fait. Ils n'ont pas géré les mêmes dossiers.
Je vais t'expliquer. La Ligue de football nationale, le président, c'est un président fantoche. C'est le directeur général qui a la, qui a la main, qui gère tout.
Donc voilà, Nathalie Bonnatour n'a pas eu son mot à dire.
Elle a eu son mot à dire, mais elle, elle ne gère rien.
Elle n'a pas géré.
Elle ne gère pas parce
c'est elle qui a validé.
Oh là là. Bon, vas-y.
Oui,
vas-y,
ou non,
vas-y,
oui,
non,
c'est monsieur, pas monsieur, attendez.
Donc, attends, je termine, attends, je termine. Donc, je veux dire, ça veut dire que le directeur général a eu des commissions sur le projet, les droits TV. Donc, n'a pas vérifié les garanties parce qu'il voulait toucher sa commission. Et voilà, maintenant, le football français est dans la merde. Et c'est incroyable. C'est sont vraiment dans la merde.
Et c'est là où Nathalie Bois-de-la-Tour, elle a sa responsabilité.
Bah, bien sûr.
Parce que elle-même.
Mais elle-même, elle a touché une commission.
Bah, c'est elle la vraie responsable. Didier Quiot, hiérarchiquement et en dessous, c'est Nathalie Bois-de-la-Tour.
Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi, en fait.
Messieurs, Stéphane.
Aujourd'hui, peu importe le responsable, le vrai problème, c'est que voilà, le Mediapro n'a pas payé son versement de 120 millions d'euros. Et aujourd'hui, les clubs français se retrouvent dans une galère totale. Ils vont pas pouvoir payer, dans, entre guillemets, faire fonctionner leur, entre guillemets, bah, tout leur club, toute la hiérarchie. Donc, les clubs français se retrouvent dans une véritable galère. Et bien évidemment, tous les responsables à la Ligue, bien sûr, les hauts responsables, les hauts dirigeants sont responsables de ce problème. Ils ont aucune garantie sur ce, entre guillemets, sur cette caution chinoise qui ne peut pas donner d'argent et voilà, bah,
qui ne veut pas, hein, surtout
juste, qui ne veut pas.
C'est ça.
Et moi aujourd'hui je reviendrai juste sur le problème, c'est que Mediapro voilà est arrivé 1 milliard d'euros, on va entre guillemets voilà renflouer entre guillemets les caisses un peu de tous les clubs français en donnant autant d'argent. Comment on se retrouve au bout du deuxième paiement de Mediapro, ils ont pas d'argent, ils peuvent pas payer. C'est vraiment incompréhensible pour moi. 120 millions d'euros à payer, ouais. On se retrouve dans une situation, ah non, on peut pas payer. C'est catastrophique.
La Ligue de football est en train de chercher de nouveaux diffuseurs. Et moi, je pense beaucoup à Google et à Facebook.
Ouais, Amazon aussi.
Je pense.
C'est des concurrents sérieux pour toi?
Oui, c'est des concurrents sérieux. On verra prochainement l'arrivée de même peut-être la Ligue des Champions, enfin la
Ligue des Nations.
Non, le championnat de France, peut-être sur Netflix.
Aujourd'hui juste
peut-être sur Netflix. Vous allez voir, hein.
Ouais, c'est une possibilité.
Certainement, ils ont pas le choix, hein, parce que Bein et Canal Plus.
Je pense qu'il faut savoir garder raison. Ils ont voulu jouer au plus fort. Ils ont perdu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quelle est la solution pour avoir le plus grand nombre d'abonnés. Parce que là, maintenant, Mediapro, ils ont 278 000 abonnés. C'est une arnaque. Ils sont compris. Donc maintenant, quel est le truc? C'est Bein Sport et Canal Plus qui ont le maximum d'abonnés et qui peuvent vivre avec en dépensant 700 800
ouais, mais millions. Est-ce qu'ils ont les moyens financiers?
Canal n'a pas les moyens.
Bein Sport, c'est une chaîne.
Ils ont les moyens de payer
700 millions d'euros pour les droits, pas un milliard.
Je pense Amazon et Facebook pourraient arriver dans le pourrait vraiment racheter les droits de
Sevan.
Je vais juste revenir sur ce que tu as dit.
Sevan puis Jouba Viknesh.
Les GAFA, certes, ça peut être une solution, peut-être pas à court terme, parce que aujourd'hui, on se rend compte que acheter les droits pour la Ligue 1 ou pour des championnats, c'est un modèle économique très compliqué. Orange s'est cassé la gueule il y a quelques années. SFR, RMC, c'est pareil.
En cours d'année.
Aujourd'hui, qui peut racheter les droits avec zéro abonné? Avec zéro abonné, c'est trop compliqué.
Au-delà de cette question, moi, ce qui me choque, c'est comment on n'arrive pas au préalable avant de signer ce contrat-là. Et ça, la LFP a une grosse responsabilité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déroulement.
Il n'y a pas de garantie. Il y a zéro garantie, bien sûr.
Et encore une fois, là, on crie Didier Quiot. Je ne dis pas que Didier Quiot n'a pas de tort, Kamel. Je te rejoins totalement. Mais je dis il faut grouper à ça Nathalie Bois-de-la-Tour, qui était sa hiérarchique supérieure. Moi, ça m'étonne qu'en 2020, n'importe qui peut dire oh, ben, moi, j'arrête de payer, je me casse. Non, ça ne marche pas comme ça. Il doit y avoir une justice, il doit y avoir une suite judiciaire.
Sans taper sur la table,
contraindre les investisseurs chinois qui ne sont pas à plaindre économiquement. Attention, c'est peut-être l'entreprise Mediapro qui a à plaindre, mais les investisseurs derrière, t'inquiète pas, ils ont de l'oseille, mon frérot. Alors va les chercher. Et c'est inadmissible de mettre le football français dans la merde comme ça.
Ça ne regarde que toi, ces propos, Jouba. Ça ne regarde que toi, Jouba. Ça ne regarde que toi. Kamel puis Viknesh qu'on n'a pas entendu.
Vas-y, Kamel. Moi, je pense que ces canals doivent se frotter les mains en ce moment. Avec Bein Sport, là, ils sont contents. Je pense qu'ils vont récupérer. Logiquement, devrait être eux. Parce que je pense que les GAFA, ça va venir leur tour, mais peut-être pas tout de suite, parce que je pense qu'ils sont pas prêts. Parce que Amazon.
Ah, il faut pas
non, peut-être Amazon, dire. Mais c'est trop tôt.
Ouais, là, c'est trop tôt, je pense. Pour les années suivantes.
Mais
là, tout de suite, là, pour cette saison, c'est assez court, je pense. Mais je pense que pour l'année prochaine, etc., ouais, les GAFA, c'est une bonne opportunité, ça sera une alternative, forcément.
Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, parce que attention, il faut mettre en place une boîte de production, il faut avoir les journalistes.
C'est un modèle économique très difficile.
C'est minimum un an. Donc je pense que maintenant, il faut pas oublier que les droits TV ont augmenté de 60%. Donc ça veut dire maintenant, on va retourner à la vraie vie. À la vraie valeur des choses, ça va être la vraie valeur de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 1 Pizza Hut, c'est la moitié.
On n'a pas le droit de prononcer la concurrence.
Ah ouais, moi c'est pas grave. Non mais attends, je termine.
Mes amitiés à Pizza Hut,
je te coupe. Voilà, donc ça veut dire maintenant le seul moyen de relancer la machine,
c'est
redonner à Canal Plus et Bein Sport.
Au moins
pour terminer la saison. Même s'ils n'auront pas leur 1 milliard, ils auront 400, 500, 600 millions. Mais c'est comme ça. Mais après, refaire
une nouvelle
offre. Mais je veux dire, il y a un moment donné, c'est Canal. Et Canal Plus, ça fait 30 ans qu'ils sont à la tête du football.
Canal Plus et Bein, ils ont fait leur budget prévisionnel. Et puis, ils doivent racheter les droits télé, ils doivent refaire leur budget prévisionnel. Ça va leur coûter des sous.
Notamment le planning avec le match du rugby qui est passé dimanche.
Oui, mais ça, c'est
non, mais le rugby,
attends. C'est quoi les journalistes qui vont partir là? C'est des dizaines, des centaines de journalistes qu'on va mettre à la porte.
Eh ben, ils vont te remplacer, mais je vais même les remplacer.
C'est inadmissible. Non, mais attends.
C'est des hommes aussi derrière.
Attends. Ouais, non, mais je veux dire, c'est une histoire d'hommes, mais chacun assume ses responsabilités. Ceux qui ont voulu quitter leur rédaction, l'ont fait comme ça, ils auront sûrement donné plus d'argent, etc.
Ouais, donc
ça veut dire que chacun assume ses responsabilités. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le football français, ils sont en galère, ils vont avoir moins d'argent, mais au moins ça sera de l'argent
sonnant
et trébuchant. Mais je pense que Canal Plus et Bein Sport vont, et après peut-être l'année prochaine les GAFA, etc. Mais attention,
après ça,
GAFA, je vous le dis franchement, c'est, ils sont des négociateurs très très graves.
Mais bien sûr.
Attention, très très grave.
C'est des Américains et ils vont pas te donner 800 millions, 900 millions pour une Ligue 1 Uber Eats. Je vous le dis franchement. Attention.
Bah, c'est bon.
Mais on a l'impression que tu dis que la Ligue 1 a explosé de manière inconsidérée.
Oui. Bah, mais c'est ce qui s'est passé avec Messi.
C'est comme tous les championnats. Non mais ça c'est vrai, c'est comme tous les championnats. Mais dire que c'est un championnat.
Non mais attends. En fait, je vais t'expliquer.
Attends, est-ce que je peux finir? Pourquoi Mediapro est venu s'aligner, qui était à la base en Espagne, il me semble, si je me trompe.
Ouais, donc ils sont allés en Italie. Attends,
est-ce que je peux juste finir, les gars?
Vas-y.
Donc pourquoi ils sont venus? Parce qu'il y a Neymar, parce qu'il y a Mbappé. C'est le
alors,
PSG qui a
plus, alors pourquoi ils payent plus au bout du deuxième versant? Pourquoi ils payent plus?
Mais si parce qu'ils n'ont plus l'argent.
Ils n'ont jamais eu l'argent.
Les investisseurs, ils ont de l'argent.
En Italie, ils ont été recalés. À ton avis, c'est pourquoi?
Comment?
En Italie,
Mediapro s'est positionné pour reprendre les droits et au final ils se sont fait recaler avant même le début de la saison.
Oui, mais
alors pourquoi on nous explique qu'en Italie ils se sont fait recaler, en France on les laisse au bout du deuxième paiement?
C'est un système d'appel
d'offres. Ils l'ont réussi.
Non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé en Italie. Ils ont gagné l'appel d'offres. Sauf que le la Ligue, ils leur ont demandé une garantie financière. Et Mediapro a dit, nous, on marche pas comme ça, on vous donne pas garantie financière. Ils leur ont dit, allez en voir et allez faire une offre à la Ligue de football. Et ils ont fait l'offre et maintenant, il n'y a plus de garantie financière.
Et en France,
maintenant,
il n'y a pas eu de contrôle.
Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer. Si Mediapro aurait eu pour 1 milliard les droits anglais, ça serait pas passé comme ça. C'est qu'ils se sont vus trop beaux. Et là, maintenant, ils sont en train de payer. Parce qu'ils pensaient avoir, en prenant la Ligue 1, avoir 1 million, 2 millions d'abonnés. Et ils ont pas 278 000 abonnés.
L'affaire des droits télé, elle a été gérée même pas par des amateurs.
Non,
hein, parce que même quelqu'un, un simple négociateur d'une petite PME,
oui, c'est sûr.
Quand il va négocier les intérêts de son entreprise, il va pas la mettre en danger.
Yacine, j'ai un super cours de gestion pour mes élèves.
Juste pour finir, excusez-moi, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mediapro, là, les Français ont eu l'expérience des Italiens. Ouais. Et ils auraient pu s'en servir. Bah, ouais. Le dossier était là. Tout le monde était au courant. Qu'ils aient été recalés d'Italie parce qu'ils n'apportaient pas de garantie. Comment ça se fait qu'en France, tu leur donnes cette possibilité?
Et même, je vais dire
ce que j'ai dit hier. À diffuser, moyennement, le premier paiement, Là, ça. Bah,
je vais dire ce que j'ai dit hier.
C'est une affaire.
J'ai lu,
très grave. Hein.
Moi, j'ai lu une interview de Maxime Saada, le président général de Canapus. Il a dit, nous, on voulait pas mettre en danger notre société. Sure. Parce que 1 milliard d'euros, c'est trop. Même si on a plus de 4 millions d'abonnés. Et eux, ils l'ont fait. Ils sont allés comme des.
Kamal, beIN Sport pendant ça fait combien d'années qu'ils sont présents sur le sol français avec tous les moyens qu'ils ont mis en place, ils ont pas pu atteindre les 4 millions d'abonnés. Bah oui.
Et juste on se rend compte au final que la politique aujourd'hui de tout miser sur la Ligue 1, la Ligue des Champions comme l'a fait Media Pro, ça marche pas. Il faut un modèle un peu plus grand comme Canal+ l'a fait en prenant la Formule 1 puis la moto, diversifier son champ d'abonnés et pouvoir construire un modèle économique bien bien meilleur que Media Pro à prendre la Ligue 1. Tu vas pas gagner 1 million d'abonnés en prenant juste la Ligue 1, c'est pas possible.
Canal+ ça fait 30 ans qu'ils sont là.
Bien sûr, voilà, ils sont installés aussi et ils ont réussi à diversifier leurs abonnés.
Merci tout de suite le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
On continuera à en entendre parler, mais là on change d'univers. On passe à la Formule 1. Renault peut-il devenir un sérieux concurrent à Mercedes et Red Bull?
Oui, Viknesh. Bien sûr. Surtout avec l'arrivée de Fernando Alonso pour l'année prochaine et Esteban Ocon qui va rester. Le petit français qui est très performant, qui est très jeune. Et ça, c'est une bonne image, surtout parce que Renault, c'est une marque française. Esteban Ocon, il est français. Donc ça, c'est très bien pour la Formule 1 et pour la France, qui a aussi un circuit aussi qui sera là et ce sera beau pour la France. Et Renault, ils sont performants, ils ont eu un podium cette année avec Daniel Ricciardo, donc qui sera remplacé et ça monte progressivement et ils font du bon travail. Surtout que les autres équipes en fait, elles sont pas performantes alors que eux ils progressent. Ferrari ou les autres et même McLaren etc. Ils sont pas performants donc eux ils travaillent, ils progressent et je pense que l'année prochaine ils pourront faire des podiums. Après c'est l'arrivée de Fernando Alonso, moi je suis un peu perplexe, on va dire. Chaque fois il revient à Renault comme par hasard, c'est sa maison, certes, ouais, il est champion du monde ici, c'est cool, c'est
non,
bien.
On va faire comme Juba, il a été champion du monde, donc
pour terminer.
Bon. Non, je pense que Renault va donner du fil à retordre à Mercedes et à Red Bull. Mais il faut ils vont donner du fil à retordre et
ils n'ont jamais donné depuis leur retour.
Avec Sébastien Ocon et tout ça, ils vont faire.
Merci messieurs. Bah écoutez, on verra si Renault peut être en concurrence sérieux. Merci en tout cas à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau Time Sport sur Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.